Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Top Comics sur un podcast bien particulier aujourd'hui, consacré une nouvelle fois à une campagne de financement participatif. Cette fois-ci, nous recevons Richard Mondragon, le scénariste de The Last Shinobi, un comics qui est en campagne de crowdfunding jusqu'au 30 juillet. Merci Richard d'avoir accepté de nous recevoir pour répondre à quelques questions.
Merci à vous.
Alors, on va commencer tout de suite. Moi, ce que j'étais assez curieux de connaître, c'était, avant de parler de The Last Shinobi, c'était de connaître ton rapport avec les comics et la culture fantastique, dont il me semble que tu es un passionné.
En fait, j'ai commencé, moi, assez tôt avec du jeu de rôle, vers le collège, où je jouais à AD&D, donc Donjons et Dragons. Et j'ai fait beaucoup d'heures de jeu là-dessus. Et puis, tous les dérivés qu'il y a pu avoir après sur jeux vidéo, comme Baldur's Gate. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux comme beaucoup de personnes, et puis même Merlin l'Enchanteur, ne serait-ce que ça aussi très jeune. Voilà, c'est des univers qui m'avaient tout de suite captivé, et même le jeu Magic, Magic the Gathering, le jeu de cartes. Voilà, il y a tout un univers aussi qui est déployé dans ce jeu qui m'avait intéressé. Et voilà, donc ça c'était un peu mes portes d'entrée dans l'univers de la fantasy. Pour ce qui est des comics, alors ça c'est arrivé un peu plus tard. Alors quand j'étais vraiment très jeune, j'ai lu des X-Men, hein, que je trouvais dans les kiosques. Ça c'était vraiment mon premier contact, je dirais. Après j'ai eu un peu plus tard The Batman Animated Series, donc qui passait sur France 3 à l'époque. Donc ça j'avais bien accroché, mais finalement je me suis vraiment lancé dans la lecture de comics au premier jeu Batman Arkham. Quand j'avais vu découvert tous les bonus qu'il pouvait y avoir, où on découvrait toute la galerie des vilains, et je me disais, mais disons, il y a tout ça, mais cet univers est tellement riche, c'est assez assez impressionnant. Et je dis, mais finalement je connais rien de cet univers-là, et donc du coup je me suis mis à lire des comics. Donc voilà, donc Batman Arkham, hein, ça reste c'était il y a à peu près 10-12 ans, quoi.
Oui, exactement. Alors, avec un titre comme celui-là, comme The Last Shinobi, on peut aussi se poser la question si tu es un passionné de films ou de culture asiatique en général.
Alors, pas plus que ça. J'ai eu ma période Jackie Chan, j'ai regardé les films de Bruce Lee, j'en regarde épisodiquement, mais en fait, c'est plus que j'ai fait des arts martiaux, en fait, pendant longtemps. Donc depuis tout petit, hein, j'ai commencé par du judo, j'ai fait du karaté, de l'aïkido, j'ai un peu testé plein de choses pour voir ce qui me plaisait le plus. Et finalement, j'ai terminé sur la pratique du ninjutsu, et donc qui était un peu l'art traditionnel des ninjas et japonais. Et voilà, donc en fait, c'est le dernier art martial que je pratique. Et voilà, et j'aime tout ce qui est autour de cette culture-là. Et en fait, l'envie d'écrire ce comics est aussi venue de l'image qu'on donne des ninjas dans la culture populaire, qui est pas du tout représentative de la réalité des ninjas médiévales japonais. Et donc j'avais envie un peu de montrer ce qu'était aussi un vrai ninja, un shinobi.
Alors, dis-moi, Richard, quels sont les comics qui t'ont le plus influencé en tant que scénariste de bande dessinée?
Alors, en tant que scénariste, c'est un peu difficile. Je pense que je puise un peu dans plein de choses, aussi bien la culture comics, qu'effectivement, mais aussi l'écriture de scénarios, puisque j'étais pas mal maître de donjon, hein, comme on dit. Donc en fait c'est un peu un mélange entre comics et écriture de scénarios de jeux de rôle. Au niveau des comics, moi ce que je lis c'est Batman et Swamp Thing. C'est un personnage qui me plaît beaucoup. Après je lis effectivement moi ce que j'aime bien en tant que lecteur de comics, tout ce qui est Alan Moore, j'aime beaucoup, hein. Watchmen, V pour Vendetta, voilà. Mais après, difficile à dire si ça. Je pense pas qu'on. C'est pas mon écriture est loin de, bien sûr, de la qualité que peut avoir Alan Moore, hein, donc ça n'a aucun rapport. Donc je pense pas qu'on puisse parler d'une influence directe. Moi, ce que j'avais envie de faire, en tout cas, c'était plus une grande aventure, une grande épopée propre à la fantasy. D'ailleurs, c'est pour ça que je pouvais pas écrire qu'un seul numéro. Dès le début, là, dans mon projet, je parle d'une mini-série de 6, parce que forcément, il fallait que ça s'étale un peu sur la durée et que j'avais des choses à raconter. Donc, c'est pour ça tout de suite que je pars sur 6 numéros. Donc, ça peut paraître ambitieux dès le début, mais voilà, pour raconter cette épopée, j'avais besoin de ça.
6 numéros de combien de pages par numéro?
20 pages par
20
numéro.
pages. Ouais, donc on reste sur le format comics, hein. Ouais.
Oui, tout à fait. Ouais. C'était la volonté première de rester sur ce format comics. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de The Last Shinobi et de l'histoire que tu veux raconter à travers cet album?
Donc en fait, c'est l'histoire de Kotaro, qui est le dernier ninja du monde d'Orme. Donc le monde d'Orme, c'est un monde fantastique, hein, un monde de fantasy, hein, donc un monde totalement dissocié du nôtre, avec plein de peuples et de créatures différentes. Et donc lui, il se retrouve un peu dans l'histoire de ce monde d'Orme, dans une phase un peu particulière où tous les ninjas ont été exterminés et il se retrouve à être le dernier, ou en tout cas un des derniers. Après, on ne sait pas tout. Et donc du coup, bah, il essaye un peu de. On lui a donné comme mission de faire perdurer l'esprit du sabre, donc de faire perdurer la voix des ninjas. Et donc voilà, il se retrouve avec plein de réflexions en se disant, est-ce que faire perdurer la voix des ninjas, est-ce que c'est venger mes frères d'armes, est-ce que c'est prendre des élèves et leur enseigner ce qu'est un shinobi? Voilà, donc il se retrouve un peu perdu dans tout ça. Et puis après, il y a toute cette histoire-là qui il va faire des choix importants dans sa vie. Et bon, ça va se transformer assez rapidement, un peu quand même en vendetta. Et voilà. Mais derrière, il y a toute la philosophie. Ce que je voulais apporter, moi, c'est toute la philosophie des shinobi, parce qu'on montre souvent que les ninjas, c'est soit c'est des méchants sans foi ni loi, soit c'est des gens qui ont des pouvoirs ou qui font carrément presque de la magie. Et bon, bien sûr, ce n'était pas ça, hein, les ninjas. Donc voilà, étant pratiquant du ninjutsu, je voulais vraiment apporter aussi bien le côté martial où j'essaie de faire attention sur des positions qu'on retrouve, qui sont des vraies positions de ninjutsu dans le comics, mais aussi sur tout l'à côté, parce qu'il n'y avait pas que le côté martial, il y avait tout le savoir. Donc en fait, c'est des véritables ingénieurs de l'époque. Ils maîtrisaient plein de choses. Ils maîtrisaient leur environnement, la faune, la flore, le camouflage, et voilà, il y avait tout ça. Et donc voilà, donc je voulais vraiment montrer ce qu'est un ninjutsu. Je voulais vraiment montrer ce qu'était un shinobi, qui est donc un pratiquant du ninjutsu. Mais après, je voulais le mettre dans un contexte de fantasy. Donc voilà, pour apporter, j'ai mélangé un peu les genres, hein. J'aime la fantasy, j'aime les ninjas shinobi, et donc j'ai mis du coup un shinobi dans un contexte de fantasy. Et après, dans l'univers, on va retrouver plein de races différentes. Et en fait, le comic, c'est vraiment, on suit les aventures de Kotaro comme si on l'accompagnait dans son aventure. Et donc, on découvre l'univers du monde d'Orme en même temps que lui, en fait. Et lui, il nous explique beaucoup en voix off un peu ce qu'il sait. Et on découvre les différentes civilisations avec lui. Donc, j'ai essayé de faire un petit côté immersif dans ce comics, où voilà, on découvre avec lui le monde d'Orme.
Alors, j'ai eu l'occasion de lire les premières pages donc, de The Last Shinobi, et j'ai le sentiment que le souvenir semble jouer un rôle important dans l'histoire, parce que dès les premières pages, la mémoire vient souvent recouvrir carrément la réalité, hein, même graphiquement sur les planches. Est-ce que cet élément, c'est-à-dire la mémoire, va-t-elle jouer un rôle important dans l'intrigue?
Oui, tout à fait. En fait, bah déjà pour rentrer un peu dans la peau de son personnage de Kotaro et comprendre un peu mieux ce personnage-là, c'était important de revenir sur des périodes importantes de sa vie, parce qu'il a malheureusement eu plusieurs drames dans sa vie, et c'est ce qui le motive au moment où on suit ses aventures. Donc c'était important de revenir sur ces souvenirs-là. Mais après, c'est vrai que dans chaque numéro, donc là dans le premier il y en a, mais dans les 6 autres il y en a quasiment tout le temps. On revient sur des phases du passé, des phases importantes, aussi bien de sa vie personnelle que de l'histoire du monde d'Orme. Et voilà, et donc du coup, on comprend mieux les tenants et les aboutissants via tous ces souvenirs-là. Et puis on s'implique davantage dans l'histoire. Donc effectivement, il y en a de manière récurrente dans le comics.
Alors justement, pourquoi avoir choisi un format comics et pas par exemple un format franco-belge pour raconter cette histoire?
Bah en fait, moi actuellement, maintenant, je lis quasiment que des comics. Donc c'est le format qui me plaît. Donc voilà, naturellement, en fait, ça m'est venu. Puis j'aime bien, en fait, la narration des comics aussi, avec le twist à chaque fois en fin de numéro, qui est un peu, en fait, le format qu'on retrouve dans les séries télé maintenant, hein. Voilà, c'est ces twists qui donnent envie de lire la suite. Et puis, donc voilà, en fait, je suis un grand lecteur de comics actuellement, et puis j'aime bien cette dynamique qu'il y a dedans. Et du coup, ça m'est venu naturellement de prendre ça. Et là, du coup, on s'y met bien puisque on prend des soft covers, hein, donc on prend les single issues américains. Donc c'est 20 pages en magazine souple. Donc on va essayer d'être au plus proche de ce qu'on peut trouver comme mensuel américain.
On va parler maintenant aussi un petit peu de la dessinatrice de The Last, j'allais dire The Last Ninja, mais non, The Last Shinobi. D'ailleurs, Shinobi et Ninja, si je me trompe pas, c'est bien des synonymes. Hein.
Oui, tout à fait.
Ouais. Alors, Akila, donc la dessinatrice, comment tu l'as rencontrée?
Alors, Akila, je l'ai rencontré, la magie des réseaux sociaux, en fait, hein. Donc, bah, je cherchais un dessinateur qui, voilà, pouvait correspondre un peu un débutant, hein, parce que moi, je suis donc scénariste débutant. Donc, alors, je connaissais dans le milieu, parce que voilà, je m'intéresse aux comics, mais je connais pas mal aussi d'artistes dedans, parce que je suis assez investi dans ce milieu-là. Mais bon, là, il fallait quelqu'un qui soit débutant, qui puisse se lancer sur un projet et qu'on soit à peu près au même niveau. Et donc, en fait, j'ai cherché sur Facebook, j'ai trouvé un groupe de scénaristes, chers dessinateurs et vice-versa. Et donc, du coup, j'ai posté mon annonce en montrant que c'était un projet sérieux et que voilà, c'était pas juste comme ça pour rigoler. Et donc du coup, bah, j'ai eu plusieurs propositions, j'ai fait des tests, et puis ça a convenu avec Akila, et donc du coup on s'est lancé, et puis j'ai rapidement compris qu'elle était sérieuse, et puis que vice versa, elle a compris que j'étais aussi sérieux, et voilà, donc là ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble dessus.
Alors justement, comment est-ce que vous travaillez tous les deux en fait, est-ce que tout se fait à distance ou bien est-ce que vous habitez suffisamment, est-ce que vous êtes suffisamment proches l'un de l'autre pour pouvoir échanger directement? Comment ça se passe?
Et bah du coup on s'est trouvé sur les réseaux sociaux et en fait elle est belge donc et moi j'habite Aix-en-Provence donc on se voit pas hein. Alors on s'est rencontrés une fois j'ai pu elle est descendue dans le sud de la France et on a pu se voir mais on travaillait déjà depuis plusieurs mois ensemble donc c'était le fruit du hasard mais non on travaille tout par mail donc en fait elle fait une page par semaine elle fait un croquis un layout. Elle me l'envoie, je lui fais mes remarques, et puis après elle fait une version définitive qu'elle me renvoie. Des fois il y a encore des petites corrections mineures à faire, et puis voilà, chaque semaine on échange. Et bon, des fois je lui envoie des photos de moi parce que comme il y a des positions, etc. J'essaye de bien lui faire comprendre les postures. C'est pas toujours évident pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux. Donc voilà, elle est très ouverte, tous les deux, on peut facilement discuter. Des fois, on se fait des sessions en live aussi, et on essaye d'échanger au maximum sur chaque page et ce qu'on a envie de faire passer comme message. Et du coup, ça marche très bien comme ça. Et puis, bon, le fait qu'après on ait pu se rencontrer, c'était la cerise sur le gâteau, voilà, de pouvoir discuter de vive voix après sur le projet en face à face.
Alors, il me semble qu'il n'y a pas que toi et Akila sur le projet, il me semble qu'il y a aussi un coloriste.
Oui, tout à fait. Il y a Elmer Santos, donc c'est un coloriste professionnel qui a déjà travaillé chez DC Comics et chez Valiant. Donc du coup, j'avais son contact, j'avais déjà vu son travail dans mes lectures quotidiennes. Donc du coup, je l'ai contacté. Bon, j'en avais contacté plusieurs des coloristes et avec lui, on s'est bien entendu. Et on a fait quelques essais et ça me convenait tout à fait. Et bon, ça apporte une vraie plus-value aux comics d'avoir une touche en plus professionnelle voilà et donc là du coup donc il y a un Français finalement une Belge et un artiste philippin. Donc ça fait une équipe un peu internationale et tout marche très bien par échange mail. Bon là il y a le barrière de la langue, là forcément je parle en anglais avec lui, mais voilà, tous les deux on se débrouille bien en anglais, donc du coup on arrive à se comprendre, il n'y a pas de souci.
Alors pour le personnage de Kotaro, quelle référence tu as donnée à Akila?
Donc Akila, alors comme c'est un personnage du coup un shinobi d'origine japonaise, je voulais qu'on retrouve ça. Donc je lui ai expliqué que c'était un métis caucasien et asiatique. Donc c'est pour ça qu'il a la peau plutôt claire, mais il est brun et il a les yeux un peu bridés. Donc voilà, donc c'est un métis japonais caucasien. Après, je voulais un personnage svelte, musclé sec. Voilà, je voulais pas plus de muscles que ça, parce que c'est pas représentatif de ce genre de personnages-là qui sont quand même aussi très très agiles. Et voilà. Après, Kotaro, dans l'esprit, c'est un personnage qui je pourrais comparer un peu à Batman, c'est-à-dire que ça reste un humain, mais c'est un humain à la perfection de ce qu'il peut être, c'est-à-dire que physiquement, il a des capacités très développées. C'est quelqu'un qui est très malin, très intelligent aussi. Donc, il y a un peu ce petit parallèle qu'on pourrait faire avec un personnage comme Batman. D'autant qu'il a aussi des gadgets. Les ninjas avaient beaucoup de petits gadgets, des fumigènes, des choses comme ça. Et donc, bon, forcément, là, c'est des gadgets plutôt de l'époque médiévale, hein. C'est pas technologique, mais voilà, on pourrait un peu quand même faire un parallèle avec Batman.
Alors, avec ce personnage principal de ninja, ton travail se démarque quand même beaucoup des autres comics, parce que dans les comics, traditionnellement, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages ninja. Est-ce que tu ne crois pas que ça risque d'effrayer le public actuel?
Oh non, je pense pas. Des ninjas, on en retrouve quand même. Hein. Alors, c'est pas forcément justement le ninja représentatif de ce qui est vraiment un ninja, mais bon, il y a quand même les tortues ninja, il y a les Ninjak chez Valiant et qu'on trouve beaucoup en ce moment chez Bliss Comics. Donc, dans l'univers de Batman, hein, il y a toute Ra's al Ghul et compagnie où c'est effectivement il y a toute une influence quand même de ninja. On voit beaucoup de ninjas. Donc dans la culture populaire, le ninja c'est quelque chose quand même qui est très maîtrisé, qui est très connu. Alors pas forcément sous le bon angle. Donc là c'est pour ça que moi j'essaye d'essayer de ramener plus ça vers le véritable ninja. Mais non, je pense pas. Après le personnage voilà, il a des capacités particulières, il est très fort physiquement, etc. Ça se rapproche un peu quand même du super-héros, hein. C'est un personnage qui est solitaire, qui va avoir des aventures, qui va s'opposer à des monstres. Et donc, non, ça reste quand même, je pense, très fidèle à ce qu'on peut retrouver dans plein de comics. Donc, non, je pense pas que ça puisse effrayer le lecteur.
Dernière question, ou plutôt avant-dernière question, est-ce que tu penses que The Last Shinobi va te permettre de passer à une étape supérieure en tant que scénariste?
Alors, c'est pas la volonté première, hein. Moi, j'écris The Last Shinobi surtout pour me faire plaisir, en fait, hein. Voilà, écrire des histoires, ça me plaît. Les voir en plus traduites comme ça sur du papier, avec des dessins, sur des planches, etc. C'est vraiment un pur plaisir personnel. Après, si j'arrive à partager mon plaisir avec d'autres gens, eh ben, c'est tant mieux. Et voilà, c'est pour ça que j'essaye de le faire imprimer et de pas juste le garder pour moi. Voilà, mais c'est pas du tout une volonté de devenir scénariste professionnel. J'ai déjà un travail à côté qui se passe bien, qui a rien à voir d'ailleurs dans le domaine. Et voilà. Après, effectivement, si ça marchait et que je pouvais pas en vivre parce que c'est pas un besoin financier non plus, mais si je pouvais faire ça de manière régulière comme plaisir et que ça marche, ça serait génial. Mais voilà, ça reste plus du plaisir qu'autre chose.
Richard, traditionnellement sur Top Comics, on pose toujours une question sur un top, un classement à nos invités. Alors évidemment, tu ne vas pas y couper. Quels sont pour toi les trois comics que tu recommandes à un lecteur de comics?
Alors, pas facile, il y a tellement de choses de bien qui existent, mais je vais dire des choses qui m'ont marqué. Il y a le Batman de Greg Capullo et Scott Snyder, La Cour des Hiboux. où vraiment ils descendent dans les profondeurs de Gotham et on découvre. Au début, ça avait déjà été amorcé dans Gate of Gotham, et puis après, ça continue. On descend dans les bas-fonds de Gotham, on découvre toute cette histoire sous-jacente qu'on ne connaissait pas, etc. Donc ça, je trouve, c'est un chef-d'œuvre. Et puis bon, au dessin, Greg Capullo à ce moment-là, il était vraiment extrêmement pertinent. En deuxième chose, je vais pouvoir Something, c'est un personnage que j'adore. Et du coup, j'aimais bien le côté gothique avec Len Wein et Bernie Wrightson. Et puis il y a le fameux moment où ça a été revisité par Alan Moore, qui redonne une nouvelle vision du personnage. Donc voilà, j'aime bien les deux périodes qui sont différentes, mais qui montrent une belle évolution de ce personnage-là. Pour finir, je vais parler pour faire un lien avec du coup The Last Shinobi. C'est Ninjaka, donc qui a été édité chez Bliss Comics dernièrement. Je trouve excellent cette histoire donc de ninja à ABC et toute cette histoire qu'on voit derrière, qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas. Disons que j'aime bien quand voilà, on nous change un peu, on nous fait découvrir un univers et puis d'un coup on nous dévoile tout un pan qu'on ne connaissait pas. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est approfondir un univers, le compléter, pas dévoyer la version originelle, hein, c'est savoir réinventer quelque chose. Et voilà, donc ça c'est trois histoires, trois récits que j'aime bien dans les comics. Mais bon, il y en a tellement d'autres.
Merci Richard d'avoir répondu à nos questions, surtout sur la fin où c'était pas évident avec les feux d'artifice. Ne vous inquiétez pas, ce n'était que des feux d'artifice derrière Richard. Je rappelle que la campagne de financement participatif pour The Last Shinobi est toujours en cours. Elle se déroule jusqu'au 30 juillet prochain. Pour rappel, l'adresse URL pour trouver cette campagne, c'est fr.ulule.com/the-last-shinobi. Et vous trouverez de toute manière cette adresse dans l'article qui accompagne ce podcast. Donc il n'y a aucun problème. Foncez, financez pour aider au financement et à la création de cette bande dessinée.
Bah, merci beaucoup Stéphane, hein. Ça m'a fait plaisir un peu de pouvoir vous expliquer l'idée qu'il y avait sous-jacente à The Last Shinobi, et puis bah, j'espère que vous apprécierez le récit aussi.
On n'y manquera pas. Merci Richard. À très bientôt.
Merci, au revoir. The Loyalist Lotus Lane by Preconceived Notions is licensed under a Creative Commons license. Music promoted by Breaking Copyright.